stereo.
Pleasant good afternoon to you, Montreal.
If you're having trouble, please email sys@ckut.ca. That's sys@ckut.ca. Oh,
yeah! I want to be a motivator.
CKUT. On the air, live for CKUT. Oh, what? CKUT, CKUT.
Vous écoutez Les Bossons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir, c'est avec un grand plaisir que nous recevons Gabrielle Bouliane-Tremblay, autrice et comédienne. Son premier recueil de poésie, Le ventre des volcans, a été publié par les éditions de l'Étoile de mer en 2015 et son second recueil, Les secrets de l'origami, par Del Busso Éditeur en 2018. En 2021, elle lance son premier roman d'autofiction, La fille d'elle-même, chez la maison d'édition québécoise Marchand de feuilles. Son livre est extrêmement bien écrit et très touchant. Il est d'ailleurs dans le top 50 des livres québécois les plus vendus en 2021. Gabrielle est aussi reconnue pour son rôle dans le film « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau », pour lequel elle a été en nomination au prix Écran canadien comme meilleure actrice de soutien, une première pour une femme trans au Canada. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté notre invitation. Bonsoir, Gabrielle.
Bonsoir, Nathalie.
Comme tu le sais, j'ai eu le plaisir de lire ton livre dans le cadre de l'événement Combat aux mots de fierté littéraire. Combat que Samuel Larochelle a gagné haut la main, d'ailleurs, alors qu'il défendait ton magnifique roman La fille d'elle-même. Après avoir écrit deux recueils de poésie, à quel moment as-tu eu envie d'écrire ton premier roman?
Ça l'a germé très tôt dans ma vie. Je me souviens quand j'avais 11 ans, j'étais toujours sur mon ordinateur. J'écrivais des petites histoires, des petites nouvelles, des petites histoires. Puis je me souviens que quand c'était l'été, ma grand-mère nous gardait. Puis c'était souvent l'été que j'étais la plus productive parce que c'était les vacances. Et elle me disait, continue comme ça, un jour tu vas publier. Puis c'est drôle parce que je me souviens de ces mots-là comme si c'était hier. Et effectivement, après je lui lisais mes histoires puis elle aimait tellement ça que ça me motivait aussi. J'aimais aussi créer des effets chez les gens. Tu sais, comme quand on écrit quelque chose puis on le partage, mais que ça fasse quelque chose à la personne qui la reçoit. À 15 ans, c'est là que j'ai dit, OK, là, je me lance. Je veux vraiment faire un roman d'envergure, c'est-à-dire, tu sais, comme pas un petit roman, mais quelque chose que je voulais grand, grand. Et aussi, c'est que moi, je savais pas encore que j'étais une femme trans. Donc, le roman, il y a eu une transition, lui aussi, à travers ces années-là. Donc, je te dirais, premier moment où est-ce que j'ai commencé à écrire un peu, je te dirais, la genèse de La fille d'elle-même, c'est en 2005.
Ta grand-mère a été très importante aussi dans ton cheminement.
Oui. C'est une connexion qu'on a qui va au-delà du lien familial. C'est comme une connexion spirituelle aussi. J'ai toujours été proche d'elle. Parce que, justement, c'est une figure qui revenait souvent dans ma vie. Elle était en ville, puis moi, j'étais en campagne, mais elle venait nous voir. Puis en même temps, ça lui faisait des vacances de la ville aussi. Donc, c'était comme une deuxième mère pour moi. J'ai voulu la rendre un peu immortelle en la mettant dans un livre. C'est sûr que c'est pas tout à fait elle à 100%, parce qu'on est dans l'autofiction. Mais je voulais lui rendre hommage en la rendant immortelle à travers l'écriture.
C'est réussi.
Merci.
Pour les gens qui n'auraient pas encore lu ton roman, La fille d'elle-même est le récit d'une femme trans que l'on suit de l'enfance à l'âge adulte. Comme c'est difficile pour la plupart d'entre nous de s'imaginer le parcours intérieur que vit une personne trans, ton livre, en plus d'être très captivant, devient un outil essentiel aussi pour comprendre plus profondément cette réalité-là. Ta façon d'écrire fait en sorte que l'on s'attache à la narratrice, qu'on l'aime et qu'on veut surtout pas qu'il lui arrive de mal. Comment le besoin d'écrire est arrivé dans ta vie? J'aimerais que tu nous parles de ton processus d'écriture.
Bien, je merci de me dire tout ça parce que ça me touche que les gens sympathisent avec la protagoniste. J'avais ce défi-là, en fait, de rendre accessible cette expérience-là à des gens qui ne la vivent pas, comme tu le dis. Et je voulais pas tomber dans quelque chose de didactique. Je voulais pas tomber dans un manuel où est-ce que, bon, parce qu'il y a autant de parcours de transition qu'il y a de femmes trans et d'hommes trans, mais je voulais que les gens soient conscients de cette expérience-là. Un peu comme si on mettait des lunettes de réalité virtuelle, qu'on était dans une expérience immersive. Mais mon processus d'écriture, j'ai pas vraiment de méthode fixe. Je sais que j'aime beaucoup, par exemple, le thé noir. J'aime prendre du thé noir dans le but d'écrire parce que ça me stimule intellectuellement, ça m'aide à faire des liens. Tandis que le café, par exemple, ben ça va être trop rushant pour moi. Puis ça va... Toutes mes idées, à la place de s'organiser, vont juste se bousculer entre elles. Mais j'écoute beaucoup de musique. C'est un livre qui a été écrit avec énormément de musique. Et dans le livre aussi, il y a des musiques, il y a des chansons qui sont importantes dans le parcours de la protagoniste. Moi, ce que j'aimais faire, c'est quand je mettais un bout d'une musique dans la fille d'elle-même, j'écoutais cette musique-là et j'écrivais la scène avec cette musique-là pour vraiment être dans l'émotion du moment, ce que ça apporte au personnage.
Tu es aussi une grande lectrice depuis longtemps, je pense. Oui. Hein, c'est arrivé jeune dans ta
Très
vie.
Jeune, première année, là. Oui.
Est-ce qu'il y a des autrices qui t'ont inspirée?
Il y en a énormément à travers mon parcours. J'ai beaucoup aimé Nancy Houston. J'ai dévoré L'empreinte de l'ange, entre autres, Ligne de faille aussi. Ligne de faille m'a inspirée pour le côté familial, de toutes les influences que peut avoir notre famille sur notre parcours. J'aime aussi Annie Ernaux, que j'ai découvert, en fait, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, mais elle est arrivée juste au moment où est-ce que je m'intéressais de plus en plus à l'autofiction, parce qu'il y a Nelly Arcand, que j'ai énormément adoré son écriture. J'ai dévoré tous ses romans. Et c'est en 2009 que j'ai rencontré Nelly. Je dis rencontré, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais pour moi, ça a été une rencontre de me dire, OK, cette écriture-là, cette écrivaine-là va me motiver à écrire vraiment avec mes tripes, vraiment. C'est aussi là que La fille d'elle-même a pris une nouvelle tournure, plus proche de moi, qui ça s'est transformé en autofiction aussi. Parce qu'avant, c'était plus fictif comme histoire, mais là, ça s'est transformé avec Nelly qui m'a comme orientée, sans qu'elle le sache, mais orientée vers l'autofiction. J'ai tout aimé de Nelly aussi.
Puis on la sent un peu, cette influence-là, quand on lit La fille d'Anne.
Oui, oui. Puis tu sais, je m'en cache pas que je l'adore. Puis ça me dérange vraiment pas que les gens disent que, tu sais, on sent telle ou telle influence, parce que pour moi, c'est des hommages.
Oui.
C'est pas du plagiat, c'est vraiment, c'est des gens qui m'ont formée dans mon parcours, qui ont fait que je me suis trouvée aussi. J'ai trouvé ma voix, donc j'aime toujours ça quand des gens le remarquent.
Ton roman éveille l'empathie envers les personnes trans et tu as réussi avec ton humanité remplie d'amour et ta sensibilité à rejoindre beaucoup de gens en dehors de la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu avais imaginé pouvoir atteindre cet auditoire-là?
Pas à ce point-là. J'ai vraiment été surprise, agréablement surprise de voir l'engouement qu'il y a eu avec le roman dès sa sortie, avec les couvertures Fugue, la couverture de Cahiers Lire. Tout cet engouement-là a fait en sorte que je me suis dit « Wow, la société est prête ». La société est enfin prête à recevoir ce genre d'histoire-là. Puis je veux juste qu'on en ait plein de ces histoires-là. Tu sais, que tous les auteurs, autrices queer, parlent de leur propre expérience. Puis ça fait en sorte que chaque voix singulière s'ajoute à la chorale de nos réalités. Donc c'est vraiment, je trouve, particulier et je suis privilégiée d'avoir eu cet accueil-là. Puis d'avoir encore une tribune pour parler de ce roman-là après plusieurs mois de... Parce qu'on le sait qu'il y a énormément de sorties de livres dans une année, là. Donc je me sens très honorée d'être encore dans l'intérêt des gens.
Oui, dernièrement, tu as fait une entrevue avec la Gazette des femmes. Et les féministes t'invitent aussi à parler de ta réalité. Ça, c'est extraordinaire aussi.
Oui, je trouve que c'est vraiment le fun aussi qu'on sente ce côté-là de moi. Que, tu sais, je me considère pas militante à 100% engagée puis sur tous les fronts, mais j'aime qu'on remarque que c'est un roman féministe qui parle beaucoup de ça, que ça se voit à travers mes écrits, que je suis féministe.
L'écriture est viscérale pour toi. Tu ne pensais pas vivre plus loin que tes 16 ans. C'est dans ta dédicace. Entre autres. Et tu dis que c'est l'écriture qui t'a sauvé la vie. L'écriture de La fille d'elle-même aura pris 15 ans. Comme tu disais, tu l'as commencé tôt. Qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi long?
C'est que je suis une personne quand même perfectionniste, dans la mesure où est-ce que j'aime que tout soit le plus fidèle à ce que je ressens. Puis vu que j'étais en constante évolution, mentale, physique aussi, je voulais que ça soit le plus près de moi possible. Fait qu'on se suivait, mon roman et moi, on se suivait. Puis des fois, on n'était pas en même temps. Puis des fois, j'ai été un an sans travailler, là. Tu sais, j'ai pas été 15 ans non-stop à travailler le roman, mais à un moment donné, j'étais là, mon Dieu, ça prend tellement de temps que je sais même pas si ça va sortir un jour, là. C'est à partir du moment où je suis arrivée à Montréal que là, ça s'est concrétisé, que j'ai vraiment senti que là, l'expérience humaine pouvait être transcrite, l'expérience en tant que femme trans aussi. Mais ça a été long justement pour m'ajuster, parce que la langue française, elle est riche et est tellement nuancée. Les bons mots, je voulais vraiment avoir le bon mot pour chaque image. Puis on l'aurait fait, hein. Ben, je dis « on » parce que j'ai travaillé avec Mélanie Vincelette et Jade Bérubé, mais j'ai travaillé quand même un bon 13 ans toute seule, là. Et en tout, il y a eu 10 versions complètes de ce roman-là.
Wow.
C'est beaucoup d'amour que j'ai donné à ça, parce que vraiment, là, du début à la fin, là, je te dirais qu'il y a 10% ou 15% de l'histoire originale qui est sortie. Mais je suis restée fidèle, j'ai laissé des petits indices, mais ça, c'est vraiment pour mon propre plaisir, un peu comme une réalisatrice ferait avec des films, là, laisse des petits secrets ici et là. Comme par exemple, la fille d'elle-même s'appelait, avant, mon personnage s'appelait Elisabeth, et après ça, j'ai voulu l'appeler Isabelle. Parce que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai voulu changer de mood. Puis Elisabeth et Isabelle, je trouvais que c'est la même racine. Mais après ça, vu qu'il y avait la comparaison avec Nelly Arcan, qui s'appelait Isabelle aussi, j'ai dit non, je peux pas faire ça. Donc, j'ai dit, ben pourquoi pas qu'elle ait pas de nom.
Oui, elle a pas de nom.
C'est ça. Elle a un nom, c'est sûr, mais elle porte le nom de ceux et celles qui la lisent. C'était vraiment pour pas dévier l'attention, faire des distractions par rapport à qui est-ce. Cette femme, parce que c'est un homme qui lit la fille d'elle-même, va être cette fille d'elle-même. Là. Donc, c'est vraiment dans l'immersion.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant ton livre, on a l'impression de connaître une personne trans. Et ça, c'est primordial pour démystifier ta réalité, parce que c'est pas tout le monde qui a une personne trans autour d'eux ou d'elle. Surtout que tu le fais tout en douceur. Puis aujourd'hui, quel impact ça a eu dans ta vie d'avoir mené ce projet-là jusqu'à la fin?
Ah, c'est sûr qu'à la fin, moi, à chaque version que je terminais, je pleurais tout le temps. Parce que c'est comme, j'avais vraiment l'impression d'accompagner le personnage, puis de lui tenir la main. Puis à chaque fois, j'avais l'impression de le quitter aussi à la fin. Donc, ça a été vraiment très émotif. J'étais très émotive par rapport à tout ce qui était dans l'aboutissement de chaque version. Mais ça m'apporte une grande fierté d'avoir réussi quelque chose parce que j'ai un déficit un peu de l'attention. Peut-être pour ça aussi, ça a été long. Passer du début à la fin, puis de le publier. Mais c'est ça, ça m'a permis aussi de prendre mon temps. Puis je suis vraiment fière de l'avoir mis au monde aujourd'hui, en 2021. Je pense qu'il y a 10 ans, il n'y aurait pas eu la même réception qu'aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment né là où il devait. Même en pleine pandémie, j'avais vraiment peur parce qu'il est sorti en pleine pandémie. Mais ça a été bénéfique parce que les gens lisaient beaucoup.
Tout est arrivé au bon moment.
Finalement, alors que j'avais très peur de tout ce qui allait se passer parce que je m'étais dit, mais tu sais, si moindrement il arrive quelque chose de mondial dans le monde, puis on parle que de ça, comme on a parlé que du COVID pendant des mois et des mois, à la télé, toutes les radios, etc. Fait que je me disais, peut-être qu'il va passer sous le radar, tu sais. Fait que je suis contente de voir que la fille d'elle-même continue son chemin. Puis par le bouche à oreille aussi.
On va aller en musique avec de la chanson « All I Have to Do is Dream » des Everly Brothers. Est-ce que tu veux nous parler de cette chanson-là?
Mon Dieu, mais c'est ma chanson préférée à vie. Oh my God! Mais c'est une chanson que j'aime depuis que j'ai 11 ans. J'ai écouté un film qui s'appelle « Au volant avec les gars » avec Drew Barrymore. C'est l'adaptation d'un roman, justement. Et cette chanson-là vient dans un moment où est-ce que la personnage principale, Drew Barrymore, se rapproche de son père. Puis c'est aussi un mantra pour moi, « All I have to do is dream », parce que je me dis ça depuis des années, que tout ce que j'ai à faire, c'est rêver, puis de continuer de rêver, puis un jour, ça va arriver. Dream. Night.
Nous sommes de retour avec Gabrielle Bouliane-Tremblay, autrice et comédienne. Tu as grandi dans un petit village. Ça arrivait que des gens te disent que tu étais belle quand tu étais petite et que ta mère les reprenait en disant que tu étais un garçon. Comment ça s'est passé pour toi, l'enfance et l'adolescence?
Ça s'est passé que j'avais tout le temps l'impression d'être à côté de moi-même. J'avais l'impression d'être un calque, pas ajusté, tu sais, comme un acétate, là. Donc, je marchais toujours à côté de moi. Puis, quand on me parlait, j'avais vraiment l'impression qu'on ne s'adressait pas à moi parce qu'on me parlait avec mon nom masculin, mon ancien nom. Et j'avais, dès le départ, là, quand j'étais jeune, j'avais même pas l'impression qu'on me parlait. Donc, moi, je trouve ça particulier. J'ai réagi comme ça. J'étais très lunatique aussi à l'école. Je me réfugiais vraiment dans mon monde. J'écrivais des petites histoires dans les pages de cahiers. Puis je lisais beaucoup, comme on l'a dit un peu plus tôt. Je lisais énormément sur... Il y avait des concours de lecture à l'école. Puis quand on finissait un roman, on avait un exercice de compréhension. Puis tu sais, on y allait vraiment à notre rythme. Il y en a qui lisaient 15 livres, d'autres 3. Ça dépendait des personnes. Puis moi, je me souviens que je dévorais les mots comme si c'était de l'eau. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas bu. C'était vraiment désaltérant pour mon esprit. C'est ça. Les livres, ça m'accompagnait. Ça me permettait d'avoir moins l'impression d'être étrange, d'être... Tu sais, j'avais des amis, mais j'avais de la misère à me lier d'amitié profondément, tu sais, d'être vraiment authentique parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais à cette époque-là, j'avais aucune ressource. Dans les années 90, un petit village, pas d'accès à l'information sur la transidentité. C'est vraiment juste à Québec, quand j'étais plus grande, que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'investigue dans ce côté-là. Mais l'enfance, je l'ai passée très romantique aussi. J'écoutais beaucoup de films, puis ça le nourrit aussi, ce romantisme-là. J'écrivais un journal intime. Je tombais en amour avec pas mal tout le monde. Dans mes écrits, chaque fois que je voyais quelqu'un qui me plaisait ou qui me faisait battre le cœur plus fort, là, je me mettais à imaginer une vie avec lui. Donc, c'est vraiment... c'était ça, mon enfance. C'était l'écriture, la lecture.
Au départ, t'as fait un coming en tant que gay. Mm-hmm. Et dans la fille d'elle-même, quand la narratrice parle du début de sa transition, elle parle aussi de sa relation avec son amoureux, qui devient de plus en plus complexe parce qu'il n'accepte pas son désir d'aller vers la féminité qu'elle souhaitait. Je trouve que c'est un moment troublant du livre. Comment as-tu réalisé que tu n'étais pas gay, mais bien une personne trans?
Hey, ça a été très tôt dans ma vie, début d'adolescence, mais étant donné que je n'avais pas les ressources, ben, moi, j'avais fait la conclusion que, vu que j'étais attirée par les hommes, puis j'étais techniquement je pensais un homme, ben je me suis dit ben c'est parce que je suis homosexuelle. Donc j'ai fait un coming out à 16 ans par la force des choses en fait parce que j'avais fait une tentative de suicide. Donc c'est ma mère qui est arrivée sur le fait et tout ça, puis elle m'a dit c'est là que je lui ai raconté. Il a fallu que je me rende jusque là pour pouvoir avoir le courage de faire ce coming out là. Puis après ça, les années ont passé, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait 8 ans quand même. Donc de 18 ans jusqu'à 24-25 ans. Donc ça a été un grand chemin, mais j'ai voulu infuser un peu de ça dans l'histoire de la fille d'elle-même parce que je trouvais que cette relation-là que j'ai eue avec cet homme-là, elle était très riche et je voulais montrer aussi la complexité que c'était vraiment pas parce qu'il s'aimait pas, c'était vraiment parce que l'orientation et l'identité, c'est deux choses différentes. Et ça, je voulais que ça soit clair dans le livre que même s'il y avait de l'amour qui s'aimait, c'était plus fort qu'eux, ils ne pouvaient pas être compatibles. Donc, je voulais qu'on voit cette nuance-là. Si les deux se seraient aimés, on l'aurait moins vu, cette nuance d'identité et orientation, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'était ça aussi que je voulais montrer. Puis, je pense à travers ça, évidemment, je pense que l'art sert de catharsis pour guérir des blessures, des traumas, des choses comme ça. Puis, l'autofiction permet aussi une espèce de revanche sur le passé. Quand on revisite des choses qui ont moins bien été ou quoi que ce soit. Mais cette relation-là avec Guillaume, le personnage dans le livre, ça a été difficile à écrire parce que j'ai replongé moi aussi dans des choses qui étaient difficiles, mais je l'ai fait vraiment par souci de transcrire le réel. Tout comme il y a des belles histoires aussi, il y a des belles histoires où est-ce que les couples restent avant et après la transition. Fait que j'ai des amis que ça a bien été et tout. Fait que ça dépend vraiment des personnes.
Selon toi, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme trans qui est attirée par les hommes? Mais est-ce que ça exige plus de prudence dans les rencontres?
Je vais juste parler pour mon expérience parce que, vu que je ne suis pas attirée par les femmes, donc je ne peux pas parler de cette dynamique relationnelle-là. Mais je sais que par expérience, quand j'étais dans le dating, la scène des rencontres et tout, je sais qu'il y a tout le temps ce stress de toujours se révéler, toujours faire un dévoilement de notre identité. Puis si on le fait, j'ai l'impression que des fois, ça fait fuir les gens. Des fois, ça les choque. C'est vraiment, les réactions sont différentes d'une personne à l'autre. Puis moi, c'était vraiment difficile parce que j'étais souvent la fille qu'on va s'intéresser pour une nuit ou deux. mais après, on ne veut pas savoir plus loin qui elle est. Donc, c'était la fille des sous-sols, j'appelle. C'est celle qu'on ne va pas montrer à la pleine lumière, qu'on ne va pas présenter à ses parents, qu'on ne va pas présenter à ses amis. Puis, il y a des gars dans ma vie qui ont eu cette bonne volonté-là de vouloir que ça marche, puis que ça n'a pas marché pour plein de raisons, parce que ça les remettait trop en question. Il y a aussi tout ce tabou-là pour les hommes, je pense, hétéros, cis, d'être attirés envers une personne trans. Ça les remet énormément en question. Mais je pense que j'ai hâte qu'on voit des personnes cis hommes prendre la parole, puis parler de leur amour pour les femmes trans. Parce qu'il y en a. Il y en a énormément. Il y en a plus qu'on pense. Mais vu qu'on est comme dans une ère de masculinité toxique, etc., il y a tout ça aussi qui est en ligne de compte par rapport à ces gens-là. Mais moi, je les invite à parler de leur amour. Puis, tu sais, il n'y a pas de haine à avoir. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de haine.
Étant donné que tu es une femme trans-hétéro, est-ce que tu ressens toujours un attachement à la communauté LGBTQ+?
Ah oui, plus que jamais, je pense. Parce que je trouve que la communauté queer, elle est vraiment belle. Chaque personne est unique, resplendissante, flamboyante. On a été, tu sais, been to hell and back, là. Tu sais, on a passé à travers plein de choses, puis on est encore debout. Puis on se souvient aussi des gens qui sont partis. Fait qu'on a encore plus conscience, je pense, de la nécessité d'être soi, puis d'être en accord avec ses valeurs, puis sa réalité, puis être authentique. Puis je pense que la communauté, elle a beaucoup à apprendre au reste de la société par rapport à faire des choix pour soi et pas pour plaire aux autres. Mais vraiment, je trouve que c'est beau de voir aussi les nouvelles générations de jeunes trans qui sont fierce, qui sont fières d'être qui elles sont, puis qui sont sans compromis par rapport à qui elles sont. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça inspirant. Il y a aussi que j'ai cet attachement-là parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis queer. Quand j'ai fait mon coming out, je suis arrivée ici à Montréal. Tu sais, je me suis vraiment entourée de gens qui sont de la communauté puis qui m'apportent, qui me nourrissent intellectuellement, spirituellement, par rapport à leur propre réalité aussi, tu sais. Puis on a toujours à apprendre. Puis même nous, dans la communauté, on apprend toujours sur nous-mêmes, sur notre communauté aussi. Donc, oui, je te dirais que j'ai un attachement très fort.
Ton roman débute sous forme d'un manifeste de la femme trans qui regroupe des situations transphobes que tu as vécues depuis ta transition, aussi celles vécues par ton entourage trans. Ça se manifeste comment, la transphobie au quotidien? Et est-ce que ça t'arrive d'en vivre encore?
Des fois, il arrive quelques regards un peu indiscrets ou qui scrutent, qui se demandent, mais c'est très rare. Puis, des fois, c'est peut-être même pas juste parce que je suis trans. Des fois, c'est peut-être parce que j'ai du persil dans les dents. Je sais pas. <C'est ça. rire> Mais il y a toujours ce réflexe-là de penser à est-ce qu'ils pensent que je suis trans ou que je suis pas assez féminine, je suis trop ci, trop ça. Il y a ce truc-là qui embarque sur l'autodéfense parce qu'on a été tellement, en tout cas moi de mon côté, j'ai été tellement victime de transphobie quand j'étais dans le début de ma transition que je me dis... C'est comme rester en moi, ce côté-là. Puis même au secondaire, tu sais, des fois, il y avait des commérages sur moi. Il y avait des gens qui chuchotaient. Puis, tu sais, aussitôt que quelqu'un chuchote à quelque part, moi, je pense tout le temps que ça peut être parce que je dérange ou que quoi que ce soit. Donc, on sous-estime tellement l'impact que ça peut avoir, l'intimidation, quand on est au secondaire, puis qu'on subit ça. Même si ça donne qu'on est fonctionnel dans notre vie, puis on s'accomplit, il y a toujours cette blessure-là qui est encore vive, on dirait. Fait que la transphobie au quotidien, bien, c'est sûr qu'avec mes amis qui sont trans, on en vit. Puis c'est vraiment plat, comme par exemple dans les aéroports, où est-ce que des fois, on se fait fouiller dans les scanners et tout. Donc, il y a tout le temps ça. Puis les personnes qui n'ont pas les papiers changés parce que faute de temps, faute de moyens, faute de ressources, etc., ben là, avec le passeport vaccinal, par exemple, où est-ce qu'il faut montrer une preuve d'identité avec notre nom, ben des fois, il y a des personnes trans qui doivent montrer leur carte d'identité, mais que c'est encore leur genre masculin ou féminin, mais leur genre qui n'est pas changé encore. Fait que le nom aussi, des fois.
Juste pour aller au restaurant.
Ouais, moi, il m'était arrivé quelque chose en 2017-2018. Ça avait fait l'objet d'un article dans le... avec Nathalie Petrovski.
Dans la presse,
c'est ça. Puis c'était avec une institution financière où est-ce que... Tu sais, j'ai quand même une voix douce et tout, mais dans mes dossiers, j'avais pas encore changé le nom. Donc, là, les gens, ils disaient, on n'est pas sûr de pouvoir vous authentifier. On va devoir bloquer votre compte. Là, il a fallu que je me présente en personne. Et je te jure, j'avais ma carte d'assurance maladie avec mes cheveux longs, mon maquillage. OK, le sourire était pas là parce qu'il faut être bête, là, sur ces cartes-là. Mais il y avait quand même que j'avais mon expression de genre féminine. Et la madame qui était en face de moi, elle me dit, je ne suis pas sûre que c'est vous. Alors que j'ai pas changé mon ossature, j'ai pas changé mon nez, j'ai pas changé changé rien, là, tu sais, ma couleur de cheveux non plus. Ça, c'était, je crois, de la mauvaise foi de cette personne-là qui ne reconnaissait pas qui j'étais, qui invalidait, en fait, mon existence, ma réalité. Et ça, ça a vraiment été un acte de transphobie. Comme une fois, j'étais sur une terrasse et il y avait un gars qui avait entendu parler que moi et mon ami, on était trans. Et il s'est précipité vers nous. Il nous a touché la pomme d'Adam.
Non.
Il nous a inspecté avec ses mains. Il nous a saisi la gorge, mais pas d'une façon violente, mais le geste en soi, je trouvais qu'il était très violent. Moi, j'étais drag queen une fois, ça, j'en ai jamais parlé, mais j'ai été drag queen au bar, le drag, puis il y avait une personne qui dansait, que j'étais habillée en drag queen, et elle m'a dit « Je crois pas que t'es une fille. » C'est un gars qui m'a dit ça, puis « Je crois pas que t'es une fille. » Et il a mis sa main en dessous, dans mon entrejambe.
Non.
Pour me dire, pour vérifier qui j'étais. Ça, c'était violent. C'était vraiment violent. Maintenant, les gens, je pense, s'attendent à être moins intrusifs d'une façon physique, comme la gorge et comme l'entrejambe. Mais des fois, c'est dans les paroles aussi. Les paroles peuvent être très violentes. C'est ça. Ça, c'était vraiment inacceptable. Mais tu sais, j'ai pas réagi parce que j'étais tellement sous le choc. Je m'attendais tellement pas à ça. Tu te fais prendre en dessous de la jupe, puis tu te fais inspecter et tout.
Et même le coup, c'est comme tu t'attends pas à ce qu'un inconnu vienne te...
Non! Donc, c'est des moments comme ça, la transphobie. C'est important, je pense, aussi que les gens qui sont témoins de ça le dénoncent. Tu sais, que ce soit pas juste aux personnes trans de dire ces injustices-là, mais que tout le monde, on soit dans un bon vivre ensemble, puis qu'on se supporte.
Quand tu as commencé ta transition, est-ce que les lois pour faciliter la vie des personnes trans étaient déjà passées et surtout appliquées au Québec?
Non, pas encore, mais ça se parlait. C'était déjà dans les chambres des communes et tout qu'il y allait avoir une loi qui allait passer par rapport à qu'on puisse avoir le changement de nom et le changement de sexe, la mention du changement de sexe sur les papiers officiels, mais sans avoir la chirurgie. Parce qu'avant, il fallait avoir la chirurgie de réaffirmation de genre pour changer notre mention de sexe et notre nom. Moi, j'ai commencé ma transition, il n'y avait pas ça encore. Et là, c'est arrivé, je pense, en 2016-2017. Après ça, ça l'a fait en sorte que là, mon Dieu, quand j'ai reçu mon nouveau certificat de naissance, c'était vraiment une seconde naissance. Vraiment, j'avais vraiment l'impression enfin que ma vie commençait.
Puis ça faisait longtemps que tu l'attendais, là.
Oui, oui.
Mais avant ça, comment tu faisais? C'était toujours complexe de devoir présenter
tes
cartes.
Ah, mon Dieu, oui, c'était toujours complexe. Il fallait montrer les cartes. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous. On me disait... Puis des fois, il y avait des malaises aussi. Des fois, il y avait juste des malaises sans parole. Quand j'allais au CLLC, par exemple, où est-ce que je montrais ma carte d'assurance maladie pour m'enregistrer, là, il y avait tout ça qui changeait aussi par rapport à la réaction de la réceptionniste, tu sais, elle changeait d'attitude, puis c'est ça.
Ça créait des malaises.
Ouais, puis après, on amène ça chez nous, ces malaises-là, puis on dirait qu'ils partent jamais vraiment.
Puis est-ce que ça fait qu'on consulte moins aussi? Si
oui,
on a un petit bobo,
on retarde. Moi, j'ai retardé beaucoup de soins à cause de ça, des soins dentaires, parce que je laissais vraiment périr ma santé dentaire, volontairement ou pas, là, mais juste parce que j'avais peur d'être sur une chaise de dentiste puis de devoir m'expliquer pourquoi j'ai des rougeurs au niveau du visage à cause de la barbe que j'avais, que j'enlevais, évidemment, mais ça faisait des rougeurs et tout, donc c'est ça. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une grosse lentille sur mon visage, tu sais, comme toute la attention, même si j'étais dans la rue et quelqu'un était à l'autre côté de la rue, j'avais l'impression que tout le monde pouvait voir ça.
Ici, nous avons eu la chance de recevoir Marie-Marcelle Godbout il y a quelques années, une femme exceptionnelle qui a fondé l'Association des transsexuels du Québec, qui est devenue l'Aide aux trans du Québec. Déjà en 1980, Marie-Marcelle allait à la télévision pour parler de la réalité trans. Elle était vraiment remplie de bonté, cette femme-là. C'était comme une grand-mère. Je l'aimais beaucoup. Mmh. Et je sais que tu l'as connue. J'aimerais savoir quel rôle elle a joué dans ta vie, Marie-Marcelle.
C'était tellement une femme bienveillante. Tu l'as bien noté. Si je suis ici, j'ai une voix que je peux être qui je suis. C'est en partie grâce à elle, c'est en partie grâce à toutes ces femmes-là trans qui se sont battues. Je sais que Marie-Marcelle était dans une époque où est-ce qu'elle s'habillait de façon féminine, mais c'est une époque où on pouvait se faire mettre en prison. Dans les années 80, pour travestisme, c'était vraiment... Quand on regarde l'histoire de l'humanité, là, ça fait pas longtemps que ça l'a changé. Là. Et c'est grâce aussi à toutes ces projets de loi-là qui ont été créés, des personnes trans de tous les milieux, des juristes dans le domaine juridique qui nous aident à passer des lois, qui nous aident, qui conscientisent les gens à pourquoi c'est important de se battre pour ces droits-là et tout. Donc, moi, je trouve que Marie-Marcelle, elle a eu ce rôle-là pour moi de me sauver la vie dans un sens où est-ce que quand je savais plus qui j'étais, parce que je pensais que être homosexuel, homme, ça me suffisait, puis j'allais enfin pouvoir vivre ma vie, et que je voyais que finalement, non, je touchais un mur, ben j'ai appelé l'Inde aux Trans du Québec.
Et c'est elle qui a répondu?
Dans ce temps-là, elle répondait directement, ou on laissait un message vocal sur sa boîte vocale privée, et elle répondait à tout le monde. Elle était vraiment dévouée. C'était une femme extraordinaire qui m'inspire dans ce que je fais quotidiennement aussi, là, tu sais, prendre la parole et tout. Tu sais, je trouve qu'elle avait vraiment ce don-là de rendre sympathique notre réalité, même s'il y a beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance, de rendre ça le plus sympathisant possible. Puis je me souviens, on s'est croisés 2-3 fois en personne dans des événements caritatifs ou autres, mais on était vraiment comme si c'était des grandes amies qui se rencontraient, qu'on se retrouvait en fait.
Puis elle était hétéro aussi, Marie-Marcel.
Oui, c'est ça. Puis elle avait vraiment, pour elle, toutes les femmes trans, c'était toutes ces petites filles. Oui.
Oui, c'était comme une grand-mère, oui. Un peu avec beaucoup d'amour.
Mmh, oui. Mmh.
Ton livre est un outil d'apprentissage sur la réalité trans, on peut dire ça comme ça. On sait que c'est les trans qui vivent le plus de violence dans la communauté LGBTQ+. D'ailleurs, à la fin de ton livre, tu exposes cette violence à laquelle les trans sont confrontés en relatant des crimes transphobes puisés dans l'actualité. Est-ce que les lois au Québec sont plus adaptées qu'ailleurs dans le monde pour protéger les personnes trans, d'après toi?
Bien, il y a encore du travail à faire, ça c'est certain, par rapport à tout ce qui est injustice. Des fois, il faut se battre vraiment longtemps quand on a des injustices et ça fait en sorte qu'on s'épuise énormément. Puis que des fois, il y a des gens que ça leur tente pas d'aller dans le processus judiciaire parce que justement, c'est tellement compliqué, mais aussi tu revis tous les traumas. Et... Mais je sais que de ce que je connais, c'est sûr qu'il y a des pays où la transidentité, c'est un crime. Là. Être une femme trans, une personne trans, c'est un crime et on peut mourir de ça, d'être qui on est, juste parce qu'on est qui on est.
Les gays, lesbiennes aussi.
Oui, c'est ça, c'est encore comme ça. Donc, tu sais, je trouve qu'au Québec, il y a encore de la transphobie ambiante, mais ça tend à changer. On dit souvent qu'il faut que la honte change de camp, et qu'il faut que ce soit les agresseurs qui soient honteux d'agresser les gens et pas les victimes, tu sais, d'avoir été agressés. Donc, moi, je pense que ça tend à s'en aller vers quelque chose de vraiment plus serein comme existence.
Tu en parles d'une agression sexuelle dans le livre, un moment troublant et désolant qui est similaire un peu à ce que tu as déjà vécu. Est-ce que ça a été difficile pour toi de retourner dans ces souvenirs-là, moins heureux de ton vécu, et pourquoi c'était important d'en parler dans ton livre?
C'était important, je pense, parce que personnellement, il fallait que je raconte cette histoire-là pour essayer de me libérer de ce trauma-là. Mais aussi, je voulais conscientiser les gens parce que si on regarde comment ça se passe toute la scène, c'est vraiment pour vous montrer que des fois, on peut ne pas se douter qu'il va se passer ça. On voit pas ça arriver. Mais c'est comme un peu pour prévenir les gens de faire attention aussi quand on est dans des situations avec de l'alcool, etc. De vraiment faire attention à qui on parle. Et surtout, il y a des gens qui peuvent profiter de notre vulnérabilité au moment où est-ce qu'on est atteint par l'alcool. C'était aussi pour conscientiser ça parce que tout mon entourage... Je connais pas une amie fille qui a pas été agressée. À plusieurs niveaux, là, c'est assez aberrant de penser ça, là, de dire ça, que ça existe encore, tout ça, là, la culture du viol. C'était un passage pour moi sur la culture du viol pour montrer que c'est encore trop présent.
Qu'il faut faire attention.
Oui, oui.
J'aimerais que tu nous présentes la prochaine chanson « Comme les garçons » de l'artiste que tu connais, Catherine Jeanne d'Arc.
Oui, Catherine Jeanne d'Arc, on s'est rencontrés il y a 2 ans pour un spectacle littéraire à Sherbrooke, sur la scène de la Petite Boîte Noire. Ça s'appelle Littérature et autres niaiseries. C'est organisé par Marido Belliquier. Et pour vrai, c'est des soirées mémorables. Et Catherine était là pour faire son spectacle. La chanson n'était pas encore sortie, mais je savais que j'allais tout de suite aimer sa proposition d'artiste parce que Catherine est queer, donc elle est vraiment engagée aussi dans ses paroles. Et comme les garçons, c'est mon verre d'oreille de l'été. Et c'est aussi une chanson qui se réapproprie le pouvoir d'être une personne trans. Je trouve vraiment que c'est une chanson accrocheuse, puis revendicatrice, puis un petit peu entraînante, mais qui nous rend fiers d'être qui on est.
On va l'écouter.
Je peux faire et dire la même chose que les garçons, que les garçons, que les garçons. Je peux marcher sans crainte, mener le monde, gagner les élections comme les garçons. Être arrogant et rétorqué. We'll be right back.
Nous sommes de retour avec Gabrielle Bouliane-Tremblay, autrice et comédienne. Tu rêvais depuis longtemps d'être comédienne et tu en parles dans le livre que ça a été difficile. Tu as même abandonné ton rêve à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que tu as tenté ta chance pour le rôle dans le film « Ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau »
Ah, ça, c'est spécial. En fait, j'ai toujours voulu, aussi loin que je me souvienne, je jouais devant ma cuisinière avec les linges à vaisselle, là. Puis je me faisais des rideaux, puis je me faisais des images, des expressions faciales, de la peur, la crainte. J'avais 4 ans. Donc, c'est vraiment depuis longtemps. Puis, Ceux qui font les révolutions est arrivé. J'avais 24 ans, mais j'avais fait un cours à 18 ans d'acting, mais j'avais juste fait 2 semaines parce que j'ai dû quitter parce que j'étais en ce moment-là pas encore assumée en tant que femme trans et j'étais dans mon scaphandre d'homme. Et dans le fond, j'ai lâché à contre-cœur. Là. J'ai vraiment abandonné le cours. Mais j'ai vu dans un groupe de soutien pour femmes trans une annonce qui disait « On aimerait caster des femmes trans de toute origine, tout âge, actrice, non-actrice, pour ce rôle-là de classe batalo. » Et j'ai dit oui, je veux, parce que je venais de rompre avec mon amoureux de 8 ans de relation. Et ça faisait 2 mois et c'est arrivé comme ça. Et c'est drôle parce que j'étais tellement motivée, j'avais tellement le désir de changer ma vie. Je leur ai écrit et je leur ai envoyé des photos de moi comme un portfolio. Ils m'ont dit « Ok, on aimerait ça te voir ». J'étais à Québec dans ce temps-là, je suis allée à Montréal faire les auditions. On m'a rappelé une semaine plus tard me dire « On aimerait que tu fasses la 2e ronde ». Puis le jour de ma fête, le 27 juillet, on m'appelle pour me dire « C'est toi quel rôle ». Donc, c'était magique, vraiment magique. Puis moi, ça a été comme ma naissance au cinéma. Ce rôle-là m'a permis de m'établir en tant qu'actrice. C'est avec la nomination aussi, comme on disait plus tôt. Ça a été pour moi une claque dans le dos de l'univers pour me dire « Vraiment, ton rêve, t'as bien fait de pas l'oublier. All I have to do is dream. »
Pourquoi tu voulais abandonner au début?
C'est parce que j'étais pas bien dans ma peau. J'étais vraiment pas bien, puis on faisait beaucoup d'exercices filmés. On se regardait beaucoup dans la télé, qu'est-ce qu'on filmait, nos activités. Puis j'aimais vraiment pas ça. Puis je voyais que cette personne-là qui était dans l'écran, j'avais pas l'impression que c'était moi.
Et c'est à la sortie de ce film-là que tu as été invitée à Tout le monde en parle. C'est le film-là est arrivé avant La fille d'elle-même.
Oui.
Et ton passage à cette émission-là a été super marquant, autant pour la communauté LGBTQ+, que pour le reste de la société. Est-ce que tu as senti un impact dans ta vie personnelle et professionnelle après ton passage à Tout le monde en parle?
Oui, absolument. J'ai dû me faire une autre page Facebook, une page professionnelle, parce que j'avais juste une page Facebook. Puis j'avais aussi des commentaires de gens qui me disaient « Merci, merci, je comprends mieux la réalité. » Il y a une personne, une femme cisgenre, qui m'a dit que son enfant qui est trans a changé son nom pour Gabrielle, en hommage à qui je suis, puis à tout le parcours que j'ai fait. Fait que ça m'a touchée énormément et j'en reviens pas encore. Il y a aussi une femme qui me disait, une femme trans qui est à l'hôpital à ce moment où est-ce que tout le monde en parle a passé. Et elle a dit, merci, tu me donnes le courage de sortir de l'hôpital. Ah, parce qu'elle était suicidaire, cette personne-là. Donc, et ça m'a touchée de voir à quel point ça peut avoir des répercussions, ce passage-là. Donc oui, ça a changé énormément de choses. Après, je suis devenue porte-parole Interligne, qui est anciennement Gay Écoute, mais ça l'a fait en sorte que j'ai eu, oui, plus de visibilité aussi.
C'est eux qui t'ont approché, Interligne?
Oui, oui, c'est eux qui m'ont demandé pour faire une capsule vidéo du changement de nom. C'est drôle parce que je venais de changer de nom officiellement aussi, donc c'était comme
tout en même
un
temps.
Beau clin d'œil. Oui, la vie fait ça, elle m'envoie des beaux clins d'œil comme ça.
Tu as eu la chance d'avoir le soutien de ta famille, contrairement à la narratrice dans La fille d'elle-même. Qu'est-ce que ça change dans le processus d'une personne trans d'avoir ou non le soutien de sa famille?
Ça fait toute la différence par rapport à notre sentiment de dignité, notre sentiment d'être valide, d'exister. Quand ton père et ta mère, qui sont censés t'aimer inconditionnellement, te renient, ne veulent plus rien savoir de toi, c'est sûr que ça fait mal énormément. Plus que n'importe quoi. J'ai des amis qui n'ont pas cette chance-là, des connaissances qui n'ont pas cette chance-là et à quel point ils sont brimés dans leur liberté, ils se sentent brimés, ils se sentent dépressifs aussi.
Puis c'est plus difficile.
C'est plus difficile à chaque jour. C'est un combat de tous les jours. Puis d'avoir ce soutien-là, bien, ça permet de s'accomplir vraiment plus vite, mieux aussi.
Tu as écrit une lettre très émouvante dans Le Devoir pour ta nièce. Pour les personnes qui n'ont pas vu la lettre ou qui ne l'ont pas lue, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, en fait, c'est Manon Dumais qui m'a approché pour écrire quelque chose pour la fierté. Et moi, j'ai pensé à quelque chose par rapport à ma petite nièce. Ça a été quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Parce que quand j'étais vraiment suicidaire, que j'étais pas bien dans ma peau, ma sœur était enceinte de ma nièce. Et moi, j'avais dans ma tête que c'est elle qui me retenait en vie parce que je voulais pas que quand ma nièce allait être au monde, puis moi, je suis disparue, qu'elle ait le souvenir d'un oncle décédé, puis d'une tante qu'elle n'aurait pas eu la chance de connaître. Donc, pour moi, c'était ça. Et cette lettre-là, je l'ai écrite vraiment de tout mon cœur pour la remercier d'être là. Mais aussi pour que cette lettre-là, elle puisse la garder quand elle est grande ou qu'elle a des moments plus down, pour qu'elle se rende compte qu'elle a sauvé la vie de quelqu'un. Fait que c'est dans cette lettre-là, je raconte à quel point je l'aime, à quel point je la remercie d'être qui elle est. Je lui explique aussi un peu mon cheminement parce que ça fait 3-4 ans qu'elle sait que je suis une femme trans, puis elle m'a acceptée vraiment comme inconditionnellement. Et pour elle, ça faisait pas de différence sur qui j'étais. Je suis toujours Gabi pour elle. Ça fait en sorte qu'elle est dans mon cœur. Puis cette lettre-là, je sais, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Puis, tu sais, je fais les choses pas à moitié. J'ai joué dans le film pas à moitié. J'aime ça faire les choses comme vraiment grandioses. Puis, tu sais, je trouvais que dans Le Devoir, c'était une belle place pour avoir une lettre qui va rester pour la pérennité de la chose et qu'elle va pouvoir se référer à ça quand elle va avoir des moments plus difficiles pour se rendre compte qu'elle est importante.
Elle a quel âge aujourd'hui, Tanis?
Elle a 10 ans.
Puis, elle a eu connaissance de la lettre?
Oui, elle l'a lu avec sa mère, Emma, qui est ma sœur plus vieille. Ils ont toutes les deux eu les larmes aux yeux. Ils ont été très touchés.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée que je t'ai entendue dire en entrevue, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de personnes trans aujourd'hui, mais en fait, c'est qu'elles se suicident moins. Elles sont donc là pour témoigner de leur vécu. J'ai trouvé cette phrase-là très percutante. Justement, tu parlais que tu es co-porte-parole de Interligne, anciennement Gay Écoute. C'est important pour toi de t'impliquer dans la communauté LGBTQ+.
Oui, puis ce que j'ai dit aussi, je crois que Michel Blanc aussi, on disait un peu la même chose par rapport à... On a vraiment plus de visibilité qu'avant, mais aussi, on nous écoute. C'est pas tout d'être visible, mais il faut nous écouter aussi. Et dans le fond, je trouve que là, on nous respecte plus parce qu'on se raconte, puis on raconte à quel point c'est difficile notre cheminement. Fait que oui, on est vivante pour se raconter, puis on n'est plus des secrets. Personne. Comme j'avais écrit un poème à un moment donné, je disais « Je ne suis pas un secret, je suis quelqu'un qui aime et qui est aimé et je veux être vivante pour le dire ». Donc il y a ça qui fait en sorte que nos expériences permettent de faire grandir les gens aussi.
Oui.
Oui. Puis l'engagement avec Interligne, c'est tout simplement parce que moi-même, j'ai eu affaire avec l'organisme Aide aux trans qui, dans le fond, m'a sauvé la vie. Puis je sais à quel point une conversation, que ce soit sur un coin de table ou via Internet, dans un chat, ça peut tout changer, la journée d'une personne, la vie d'une personne. Juste d'être écouté, des fois, c'est vraiment juste d'avoir le sentiment d'être écouté, c'est tellement précieux. Pas obligé que l'autre personne qui reçoit doit absolument trouver une solution au problème de l'autre personne, mais juste d'être considéré, ça fait du bien.
On peut te voir sur la page couverture du magazine Véro, édition automne 2021, avec 10 personnalités qui ont fait notre année. Il y a Roxane Bruno, Varda Étienne,
Laurence Jalbert, Matt Duff. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde.
Comment tu t'es sentie de te retrouver parmi ces 10 personnalités de l'année?
C'était une journée comme un rêve. La journée du shooting, j'étais comme dans un rêve. C'est sûr, c'est le fun. Il y a un coiffeur, un maquilleur. C'est le fun. On se fait traiter aux petits oignons. Mais aussi, l'équipe du Véro est tellement agréable. Là. C'est comme une famille. C'est toutes des gens qui trippent à faire ce qu'ils font. Fait que tu te sens tout de suite à l'aise quand t'arrives. C'est pas intimidant du tout. Puis à ce moment-là, je sais que la couverture est 10 personnes, mais avec la COVID et tout, ça s'est fait sur 2 journées. Fait qu'il y a eu la journée de la couverture puis le côté dépliable. C'était une autre journée. Fait que moi, j'étais avec Varda, j'étais avec Matt Duff, Laurence Jalbert, Roxane Bruno et Véro. C'était impressionnant d'être à côté de Véro, que j'admire depuis si longtemps, parce que je trouve que c'est une des modèles féminins qui traverse les années, qui traverse les époques, qui sait toujours s'adapter, toujours innover, toujours être un petit peu à l'avance, mais pas trop pour faire comme on va pas la suivre. Les gens l'aiment, Véro, puis elle est vraiment magnanime. Elle a vraiment un grand charisme et aussi un grand cœur, puis ça paraît ça. Puis il y a de la place pour tout le monde dans son cœur. C'est ça qui est beau. J'étais à côté d'elle, puis c'est ça, j'étais comme intimidée, parce que pour moi, c'est... Tu sais, Laurence Jalbert aussi, c'est des monstres sacrés pour moi, là. Tu sais, intimidants qui ont fait énormément de succès avec leurs chansons, avec leurs réalisations. Pour moi, d'être là, c'est comme intimidant, mais en même temps, je le sens comme dans une immense gratitude d'avoir été choisie par cette équipe-là.
Est-ce qu'il y a un article qui vient avec la page couverture?
Oui, un petit entretien avec Laurie Dupont.
C'est dans les kiosques en ce moment.
Partout.
J'ai vu passer de magnifiques photos de toi aussi. Est-ce que tu es aussi mannequin ou c'est pour le plaisir?
De plus en plus, je suis tournée vers la mode. Je suis tournée vers ce moyen d'expression-là. Il y a eu le maquillage un bout. J'aimais beaucoup ça. J'ai étudié en cosmétologie. J'ai été cosméticienne pendant 10 ans de formation. Puis là, je m'intéresse vraiment beaucoup à la mode. Je trouve que c'est un beau moyen d'expression de soi. Et là, il y a Denis Gagnon qui m'avait approché, son équipe, pour poser pour un livre signature en partenariat avec le Collège La Salle. Je portais ses créations. Puis il y a un livre livre, là, vraiment un objet là, qui est sorti de ça, avec ma photo. Il y avait Béatrice Picard aussi, Kim Thuy était là aussi. Donc, c'était le fun d'être considérée parmi tous ces gens-là qui sont extraordinaires. De plus en plus, j'aime ça la photo. J'aime ça vraiment. Fait que je m'amuse avec des photographes, puis on est dans le créatif. Des fois, je fais des photos de mode, des fois du créatif, des fois plus portrait, casting et tout. Fait que j'aime ça jouer là-dedans.
Tu as joué le rôle de Thérèse dans Narcisse, une adaptation queer et moderne du mythe de Narcisse par Bruce Labrousse, qui a été projetée aux États-Unis plus tôt en septembre et qui sera projetée à Montréal au Cinéma du Parc à partir du 24 septembre prochain. Tu as aussi joué dans Petite mort de Terence Chautard, dans lequel tu joues le rôle de Laetitia. Est-ce que tu veux nous parler de ces deux rôles que tu as interprétés?
Oui, tout d'abord avec Bruce Labrousse, ça a été une belle expérience. Je sais que c'était un tournage de nuit. J'étais Thérèse. Dans le fond, ça se passe dans les années 70. Puis Thérèse, elle est là au début du film, à peu près 15 minutes, 20 minutes. Et c'est une oracle, un peu comme une oracle moderne, on va dire, qui croise le chemin de Narcisse, qui est en fait Félix Duval, son personnage. Et lui sort d'un bar, il croise Thérèse. Elle fait la conversation avec lui. Et là, à un moment donné, il se demande pourquoi elle porte des lunettes de soleil en pleine nuit. Et là, elle baisse ses lunettes. Et là, on voit qu'elle a des yeux comme pâles, un peu comme des cataractes. Mais elle dit « Je vois peut-être pas, mais je vois que tu vas avoir un grand périple qui s'annonce pour toi. » Fait que c'est comme le personnage qui annonce la quête du personnage. Et c'était juste une scène que j'avais, mais toute qu'une, parce que ça a été tourné avec les images de Michel Lavaux, qui est un directeur photo extraordinaire. Il a fait les images de Maria Chapdelaine, justement. La disparition des Lucioles aussi. Tu sais, c'est des images très, très, très fortes, très cinématographiques. Puis il travaille tellement avec la lumière d'une façon peu commune, je te dirais, là, dans le cinéma. C'était vraiment le fun, cette synergie-là avec cette équipe-là. Puis Bruce, il est vraiment fin. Et avec Thérence, ça fait 3 semaines, 1 mois, je pense, que j'ai tourné à peu près. C'était 4 nuits de tournage. Laetitia, c'est une fille qui, dans le fond, est amie avec Louis. Ces deux personnages-là sont des personnages principaux. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Ce sont des amis d'enfance. Et à un moment donné, Louis a disparu pendant une couple de mois suite au décès de sa mère. Là, ils reprennent contact. Alors, on est dans la soirée où est-ce qu'ils reprennent contact. Et Louis l'a invité dans un vernissage un peu underground, pas trop select. C'est comme le genre d'événement qu'on voit pas sur Facebook, là. Ça s'est juste passé du bouche à oreille. C'est un vernissage un peu intriguant parce qu'on sait pas de quoi il est question vraiment. Puis moi, j'aime appeler ce film-là un thriller philosophique. C'est-à-dire que les personnages vont beaucoup se questionner sur le sens de l'amour, la mort, la vie. Et ils vont parler ensemble et se découvrir, se redécouvrir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de travailler avec Thérence parce que pour me préparer pour le rôle, il nous envoyait des films à écouter. Puis il nous a fait une playlist aussi de chansons pour nos personnages respectifs. Fait que j'aime les personnes avec qui je travaille qui sont totales, tu sais, qui vont vraiment au fond des choses puis qui vont vraiment penser à tous les détails pour faire un film qui va vraiment être senti puis multidimensionnel.
Tu aimes beaucoup jouer au cinéma. Est-ce que tu es aussi cinéphile?
J'adore. Cinéphile, oui. Mon Dieu. Puis je trouve que cette pratique-là me nourrit aussi dans mon écriture. Puis on l'a dénoté aussi dans Le Devoir, Manon Dumais trouvait que La fille d'elle-même, c'était cinématographique.
Effectivement.
Je trouve que c'est ça, c'est que cette passion-là pour le cinéma, elle nourrit mon écriture et l'écriture nourrit mon jeu. Je suis dans une belle famille, je trouve, une belle dynamique avec mes passions.
Ça se combine bien.
Ça se combine bien. Là, je me suis donné un défi d'écouter un film par jour. Puis ça me nourrit dans mon jeu d'actrice aussi. Ça me nourrit aussi dans mon inspiration pour écrire. Donc, je trouve ça vraiment génial.
On a pu te voir dans un rôle à la télé l'an passé. Tu jouais une sexologue dans l'émission Une autre histoire. Veux-tu nous parler de ce rôle-là?
Oui, ça a été tellement une belle aventure parce que Chloé, mon personnage, c'est ça, c'est une sexologue qui va avoir Suzon et l'autre personnage, sa blonde, en fait, vont aller consulter. Suzon, c'est une femme trans. Alors, ils s'en vont justement consulter pour leur couple parce qu'il y a une femme cis avec une femme trans. Et là, Suzon demande vraiment des explications et essayer de vulgariser pour que sa copine, elle va avoir accès à cette information-là. Puis Chloé va avoir le don de démêler tous ces fils-là. Ou est-ce que, dans le fond, elle va comprendre cette réalité-là, puis elle va comprendre qu'elle n'est pas moins lesbienne parce qu'elle est attirée par Suzon, qui est une femme trans, mais qui est une femme trans qui n'a pas eu la chirurgie de réaffirmation de genre. Donc, elle, c'est sûr que ça la remettait en question par rapport, bien là, je suis attirée par cette femme, mais elle a un pénis, alors est-ce que je suis hétéro? Donc, à la télé québécoise, on avait un talk sur le fait que Suzon, c'est une femme avec un pénis de femme. Juste ça, ce texte-là est tellement fort. C'est Chantal Cadieux qui a écrit cet épisode-là. Ce personnage-là aussi, avec une telle sensibilité parce qu'elle s'est entourée de gens de la communauté pour écrire. Et pour vrai, je trouvais ça magnifique et très touchant qu'à la télé québécoise en 2020, on soit rendu là. À Heure de grande écoute, c'est une émission qui est écoutée par 1 million par soir, là. Donc, c'était beau, puis ça l'a touché les gens, ça l'a fait prendre conscience de bien des choses pour les gens.
Est-ce que t'aimes ça, avoir des rôles au petit écran?
Ou... Oui, j'aime ça. C'est une autre ambiance. Le petit écran, du grand écran, c'est une autre dynamique de tournage, mais je trouve ça particulier, je trouve ça le fun. Encore là, des équipes de tournage, c'est souvent des familles, puis moi, je suis arrivée comme à la saison 2 ou 3, et j'ai pas eu l'impression qu'on me regardait de haut ou quoi que ce soit. J'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille, déjà.
À part de la sensibilisation sociale, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les personnes trans puissent vivre leur vie librement et en sécurité?
Bon, ben ça, c'est de nous écouter quand on a des injustices à raconter. Je pense aussi qu'il reste des lois à améliorer pour nous, pour que les gens cis prennent notre défense aussi, les alliés. Je pense qu'on a besoin des alliés parce qu'on est une minorité d'une minorité. Là, on est... Il n'y a pas beaucoup de personnes trans là, quand même, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire par rapport à l'acceptation. On a besoin aussi beaucoup dans les médias, dans les œuvres cinématographiques des personnages trans, mais dont la quête du personnage ne tourne pas autour nécessairement de la transidentité, mais qu'on voit que c'est des personnes aussi, qu'on est des personnes d'abord et avant tout, puis que c'est ça, on s'accomplit comme tout le monde. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, qu'il y a des grandes portes ouvertes, des grandes opportunités pour les cinéastes, les scénaristes, pour faire des beaux rôles de personnes trans, vraiment, qui vont marquer encore plus les esprits, puis aider à faire avancer, parce que je trouve que le cinéma, la télévision, c'est des grands médiums qui font passer beaucoup plus de choses que des fois un speech d'un politicien. Donc, c'est vraiment, je trouve, très, très important qu'on considère ça encore plus.
Est-ce que tu as des nouveaux projets qui s'en viennent?
Oui, en fait, il y a l'écriture de La fille d'elle-même 2. J'ai pas de titre encore, mais c'est ça, c'est un long processus. Mais ça ne prendra pas 15 ans. Je suis vraiment motivée avec tout l'accueil qu'il y a en ce moment et je suis très motivée à le continuer. Puis elle m'est très chère, la fille d'elle-même. Mais aussi, là, elle est rendue à Montréal. Donc, on va tout voir sa vie dans la grande ville parce que dans le dénouement et tout, elle commence à s'afficher.
Ça va être son vécu d'adulte?
Oui, oui, on va être vraiment là. Là, elle va être une femme. Mais c'est drôle parce que l'acronyme de la fille d'elle-même, c'est F-E-M.
Oui.
Femme. Alors, j'aime ça des fois l'appeler la femme. Pour ça, c'est moins long aussi. Mais c'est drôle parce que c'était même pas voulu. Puis le titre est arrivé vraiment à la fin du processus, là. Dans un moment désespéré, à un moment donné, j'ai fait, ben, c'est une fille qui se donne naissance. Puis tu sais, souvent, on disait, ah, t'es la petite fille de qui? T'es le petit gars de qui dans le village? Mais elle, vu qu'elle se crée elle-même sa propre vie, ben, c'est ça. Je me suis dit, c'est elle, sa propre mère, donc c'est elle-même, la fille d'elle-même.
C'est un super titre.
Merci. Je vais faire un autre recueil de poésie avec Del Busso, qui a publié Les secrets de l'origami. Donc, j'ai hâte de retourner dans la poésie encore plus.
On va se laisser avec la chanson « Dites-lui » de Marie Laforêt. Qu'est-ce que cette chanson représente pour toi?
Ah, mon Dieu! Ben, en fait, c'est Marie Laforêt représente tellement pour moi. Puis d'abord, je la cite en exergue au début de La fille d'elle-même, la chanson « Emporte-moi ». Mais Marie Laforêt, c'est une chanteuse dont j'ai chanté les chansons quand j'étais jeune à plein poumon. Je trouvais qu'elle a cette faculté-là de garder la sensibilité, elle est pas tant dans la technique, c'est très, très lisse. Il y a du vibrato, une voix chevrotante parfois, mais tu sens que c'est l'émotion qui passe à travers elle. Elle vit vraiment ses chansons. Et moi, je trouve que c'est une artiste exceptionnelle qui nous a quittés il y a 2 ans, je pense, elle est décédée. C'était aussi une actrice. Elle avait 2 carrières, elle aussi. Donc, je trouve qu'on a des similitudes à certains endroits.
Est-ce que c'était tes parents qui écoutaient ça?
C'était moi, parce que j'avais écouté le film de Léa Poule, Emporte-moi, qui est un film extraordinaire sur l'entrée de l'adolescence, le désir amoureux, etc. Même homosexuel, à un moment donné, elle est troublée par une fille, la personnage de Karine Vanasse. Puis à un moment donné, il y a cette chanson, Emporte-moi, de Marie Laforêt, qui joue sur un vinyle dans le film. Et c'est là que ça m'a troublée et ça m'a interpellée, cette chanson.
Gabrielle, tu as su transformer tes souffrances en quelque chose de lumineux en écrivant La fille d'elle-même. J'aime beaucoup ta façon de sensibiliser la société par ta douceur, ta sensibilité et ton authenticité.
Merci.
Merci beaucoup, Gabrielle Bouillane-Tremblay, pour cette belle rencontre.
Merci de m'avoir reçue, de m'avoir accueillie comme ça, vraiment.
Et dites-lui qu'il neige et que les enfants courent au manège dans leur manteau. tout blanc. Et dites-lui qu'il neige, mais ne dites pas que j'ai de la peine et que je l'attends. Et dites-lui qu'il neige, mais ne dites pas que j'ai de la peine et que je l'attends. Et dites-lui que l'arbre fleurira bientôt et qu'il y a sur la table du miel et de l'eau. Et dites-lui que Rose garde les enfants les jours où je porte mon linge à l'étang. Parlez-lui de Rose, mais ne dites pas que fidèle est morte et que je l'attends. Et dites-lui que Pierre est enfin rentré, que trois ans de guerre l'ont bien fait changer. Et dites-lui que Jeanne s'est défiancée et que Pierre et Jeanne vont se marier. Et dites-lui qu'un homme est venu s'asseoir, que ses mains sont bonnes et chaud son regard. Il chasse la neige, m'emmène à l'étang et joue au manège avec les enfants. Et dites-lui qu'un homme est venu ici, que ses mains sont bonnes et que j'ai dit oui. Que ses mains sont bonnes et que j'ai dit oui.
Merci d'avoir été à l'écoute. Nous, on se donne rendez-vous le 4 octobre prochain à 19h pour une autre émission de Les Beaux-Sons.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
She's thought about it all week. She invited her friends. She got a new dress. She went to the restaurant. She wasn't allowed in the restaurant. She had to put away her new dress. She couldn't see her friends. And she thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. A vaccination passport is now required to enter certain public spaces. A message from the gouvernement du Québec.
By stats, prison is a gold mine camp with no buybacks. Nigga, it's a wizard in the system holding all my blacks. It started in 1640, shackles around my ankles. Melanin meant that I can't go to schools or read, cause who's gonna serve my master? Also, the pastor described all my people as the sheep who exist to upkeep the land. We feed the economy, creep all the crops, but then feed on it modestly, consciously knowing you're lesser than. And lighter skin means that you're better now. So you in the house taking whips and probably dick, cause well, you a fetish now. Meanwhile, I'm grateful for all that I'm given. I'm picking this cotton in rhythm. I pray for a lot of the living. Escaping is probably a sin, and if God ever finds out that I